Aujourd'hui, à Rencontre, serait question de Franz Liszt, ce grand compositeur, en principe d'origine hongroise, mais qui parlait français à la perfection et qui était en grande partie de culture française et allemande. Compositeur, pianiste, virtuose, extrêmement réputé, et compositeur beaucoup plus intéressant qu'on ne pense, parce que malheureusement, on joue toujours et simple éternellement les mêmes œuvres, des œuvres de virtuosité sensationnelles, et certains pianistes nous jouent ça continuellement d'un bout à l'autre de la terre, mais malheureusement, on n'entend presque pas les grandes œuvres de Liszt, dont certains ont dit qu'elles sont à la source de la musique. Aujourd'hui, à Rencontre, serait question de Franz Liszt, ce grand compositeur, en principe d'origine hongroise, mais qui parlait français à la perfection et qui était en grande partie de culture française et allemande. Compositeur, pianiste, virtuose, extrêmement réputé, et compositeur beaucoup plus intéressant qu'on ne pense, parce que malheureusement, on joue toujours et simple éternellement les mêmes œuvres, des œuvres de virtuosité sensationnelles, et certains pianistes nous jouent ça continuellement d'un bout à l'autre de la terre, mais malheureusement, on n'entend presque pas les grandes œuvres de Liszt, dont certains ont dit qu'elles sont à la source de la musique atonale, de la musique croix de Webern, de Schönberg. Un jour, Claude Debussy a entendu une de ses œuvres et a été absolument étonné et émerveillé. Quand il est né, dans la nuit du 21 au 22 octobre, c'est l'anniversaire, il a reçu le nom de Franz. Il était, paraît-il, selon le livre intéressant de Guy de Pourtalès, qui a été revu et corrigé et tout ça, à la suite de longues recherches, il était si chétif qu'on a cru qu'il mourrait. Alors, il faut pendant ses premières années le disputer, dit-on, sans repos, à la mort. Et à la fièvre, maladie nerveuse qui alterne. Dans un corps vraiment débile de ce pauvre enfant, ça provoque même des syncopes. Et une fois, en rentrant de tournée, son père, qui était musicien aussi, trouve sa femme abîmée de douleur devant le lit de Franz, qui est mort. Le charpentier du village prend les mesures et prépare le cercueil, dit-on. Étrange, hein? Mais le petit Franz revient à la vie en dépit du médecin, dit Guy de Pourtalès. En dépit du médecin, il faut dire que les médecins de l'époque, c'est pas les médecins d'aujourd'hui. Hein? Et ces troubles ont duré jusqu'à à peu près l'âge de 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans. Puis sa santé s'est affermie, il est devenu d'excellente santé. Hein? C'est assez remarquable. L'existence n'avait rien perdu de sa sévérité à Reading, où ils habitaient, puis, sauf pendant les vacances où l'on se rendait à Eisenstadt, où était le patron Esterhazy, le comte Esterhazy, qui était extrêmement riche. Les Liszt vivaient donc sur leur terre, en paria, et de très rares visites d'amis, les livres d'une bibliothèque de fortune que le prince Esterhazy avait mis à la disposition de son régisseur, car il était régisseur d'Esterhazy. Il y avait le piano, la guitare aussi, c'était les seules distractions. Et un dimanche, Monsieur Liszt, je dis bien Liszt et non pas Litz, parce que le T est à la fin, il paraît qu'il faut prononcer Liszt comme une liste. Et un dimanche, M. Liszt s'étant mis au piano pour jouer le concerto de Ries en do dièse mineur, le petit Franz, alors âgé de 6 ans, se coule auprès de lui. Et tête penchée et bouche entrouverte, il écoute les voix qui sortent de la caisse du piano, cette caisse d'ébène, d'où les unes après les autres, où tout ensemble, elles naissent à la vie et il est bouleversé, il ne bouge de place, il reste figé, ouais. Pour lui, tout ça c'est merveilleux. Et lorsque le père a achevé cet extraordinaire entretien, c'est un entretien avec la musique, hein, qu'il a allumé sa pipe, il a repris ses paperasses, dans lesquelles il a toujours le nez fourré, comme on dit, ben, le petit Franz s'enfuit dans le jardin pour retenir le plus longtemps possible ce que lui ont dit ses amis, cette musique qu'ils considèrent comme ses amis, qui n'ont pas de visage, les compositeurs aussi. C'est un jeu pour lui de retrouver les mélodies. Le soir, même à table, il chantonne, sans se tromper, les mélodies qu'il a entendues dans l'après-midi. Monsieur et Madame Liszt sont complètement saisis devant la mémoire de leur fils. Leur fils qui grandit et qui dit à un moment donné qu'il veut apprendre la musique sans perdre un jour. Alors son père, l'intendant, regarde son fils longuement, avec un peu de jalousie, mais aussi avec un petit peu d'orgueil et de fierté, hein. Alors il a tout à coup l'intuition qu'il va peut-être vivre quand même ce vieux rêve, dont les circonstances ont frustré lui qui était musicien, mais qui est finalement intendant, tout en étant musicien en même temps. Et il prend son enfant dans ses bras. Il le dépose une fois encore auprès de lui, à côté du piano. Et là, il joue la finale du concerto. Et il lui demande, « Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ?» Puis, il montre une lithographie de Beethoven qui est accrochée contre le mur, puis il dit, « Celui-là. » C'est là, c'est ça que j'aimerais faire. Alors, son père, M. Liszt, Adam Liszt, était assez poète pour croire aux rêves, même aux rêves prophétiques. Hein. Alors, dès le lendemain, ce jour, il donne à son fils sa première leçon, puis dès la dixième, il n'hésite plus du tout, il n'y a aucun doute, son fils va suivre les traces du petit Mozart. Alors, on ne l'arrache plus du piano, il y passe des heures à faire des gammes. Il comprend tout à demi-mot. Il transpose d'un ton dans l'autre, sans la moindre hésitation, hein. Son oreille était si juste, miraculeusement juste. Sa petite main au doigt délié semblait comme rompue d'avance à toutes les difficultés là, du mécanisme du piano. Et plus surprenante encore, c'est sa mémoire, hein, qui retenait tout sans effort. Et pour l'éprouver, M. Liszt joue maintenant pendant de longues heures devant son fils. Et Franz Liszt, le petit, se met ensuite au clavier. Puis il rend à sa manière, et selon le pouvoir de ses petits doigts, les morceaux les plus variés. On avait compté sur un enfant doué et on rencontre un prodige. Mais le père enthousiaste ne voit pas que... Il se rend pas compte que les yeux de ce pauvre enfant se cernent et, après 3 mois d'études comme ça, ce pauvre petit en arrive à être au seuil de la mort une fois de plus, alors il faut arrêter toute cette musique et se remettre à réfléchir sérieusement. Et le petit Franz ne consent à rester étendu que si sa mère remplace cette grande chose défendue qu'est le piano par des lectures. Et elle lui lit les contes de Grimm. Vous vous souvenez peut-être, les gens plus âgés, les contes de Grimm, on lisait ça. Hein? C'est encore imprimé, on peut les acheter dans des nouvelles éditions pour jeunes. Hein? Il y a même des études sur la valeur des contes de Grimm, qui sont très intéressantes, des analyses psychologiques aussi. Je crois que Drevermann en a fait, d'ailleurs. Et le plaisir qu'il prend d'abord à ces contes de Grimm, ça ne le satisfait pas. Il préfère bientôt la vie des saints. Oui, c'est un enfant tout jeune et qui aime la vie des saints. Ça existe, hein? Ça existe. Il aime ses histoires. Il se plaît aux récits héroïques des vies de saints. Alors, monsieur le curé de Reading s'intéresse fort à cet enfant. Il vient 2 ou 3 fois par semaine pour lui montrer à écrire, pour lui enseigner aussi l'arithmétique. Ses leçons, comme celle de sa mère, se termine encore par des aventures. C'est l'histoire sainte, donc les personnages de l'Ancien Testament et au besoin du Nouveau Testament. La vie et la passion de notre Seigneur aussi, ça l'intéresse beaucoup. Il y a des récits puisés aussi dans les pères de l'Église. Imaginez, tout jeune comme ça, il connaît déjà un peu les pères de l'Église. Et Franz Liszt pose de curieuses questions, puis il montre un peu un penchant vers une espèce d'exaltation mystique que ses parents, qui sont très exacts dans leurs devoirs spirituels, cependant cherchent plutôt à atténuer ça, ces élans mystiques-là. Ils ont... Je trouve qu'il exagère peut-être un peu. Et souvent, on l'entend parler la nuit, gémir, ou bien sa mère le trouve en prière, le visage brillant de larmes. Faut dire que son père était entré chez les novices franciscains dans sa jeunesse. Son père était donc... ce qu'on peut appeler un comptable de bergerie, mais un intendant aussi, chez le prince Nicolas Estiradi, qui est mort en 1833, lui, qui avait été candidat de Napoléon au trône de Hongrie, qui a eu à son service Haydn, qui a été le protecteur de Beethoven. Ce prince Estiradi, c'était pas n'importe qui, était très célèbre par son immense fortune, son faste, son culte des arts. Il avait des galeries de tableaux, un jardin botanique, des orchestres, des chœurs, des salles de concert, un théâtre lyrique. Imaginez l'argent qu'il dépensait chaque jour. Ça doit être effrayant. D'ailleurs, il était d'une folle prodigalité. Adam Liszt, lui, fait partie de l'administration princière à Kismarton, ou Eisenstadt, si vous voulez. Il a été... élève à Potsdam de Riegel, qui a été aussi le maître de Hummel. Il était violoniste à l'orchestre. Et il était aussi basse dans le chœur. On connaît de lui d'ailleurs un tédéum pour chœur et orchestre. Et en 1810, il épouse Anna Lager, fille d'un boulanger qui avait travaillé comme femme de chambre à Vienne. Elle chantait. Et son mari l'accompagnait avec la guitare. Alors le petit Franz, il grandit dans un bon milieu, puis fait preuve donc de ce remarquable talent musical de plus en plus. Son père tient donc à lui donner une sérieuse éducation musicale, et lorsqu'en 1820, à Oedenburg, à Sopron, si vous voulez, puis le 26 novembre de la même année à Pressbourg, au palais du comte Casimir Estiradi, eh bien l'enfant joue dans les concerts avec grand succès. Puis là, il y a 6 hommes très riches, des Hongrois, qui lui assurent une bourse pendant 6 ans. Alors Adam Liszt veut d'abord conduire son fils à Weimar, chez Hummel, avec qui il avait été très lié au cours des années 1804 à 1811. Là. Et mais Hummel exige plusieurs ducats par le son. Alors, le projet est abandonné. Mais là, Adam Liszt se dirige d'un autre côté. Il obtient, au prix de difficultés extraordinaires, d'être attaché par le prince Estiradi à Vienne, à l'administration centrale des biens princiers. Et Czerny, le pédagogue connu, l'élève de Beethoven, donne gratuitement, heureusement, des leçons de piano à Franz Liszt. Et Salieri, ça vous dit quelque chose, Salieri, dans la vie de Mozart, maître de chapelle de la cour impériale, aussi, lui donne à Franz Liszt des leçons de théorie. Et là, la famille Liszt rentre en Hongrie, et Franz Liszt donne 4 concerts à Budapest, avec une circulaire aux autorités diplomatiques et une recommandation de Metternich à Cherubini pour le faire admettre à Paris au Conservatoire national. Ben, la famille se met en route vers Paris à travers l'Allemagne. C'est une véritable tournée triomphale. Franz Liszt, enfant, donne des concerts avec un immense succès dans plusieurs villes, à Munich, à Augsbourg, à Stuttgart, puis en France à Strasbourg. Et là, un journal d'Augsbourg proclame qu'un nouveau Mozart avait fait son apparition. Et à Paris, eh bien, la famille Erard, qui avait décelé le génie de l'enfant, le prend sous sa protection, mais Cherubini refuse de l'admettre au conservatoire. Pour quelle raison? Oh, probablement parce qu'il n'aimait pas Salieri, qui avait été son maître. Alors, le maître de Franz Liszt. Mais l'argument que des étrangers ne pouvaient être admis au conservatoire de Paris, ça vaut rien, parce qu'à cette époque, il y avait 4 élèves étrangers. Et d'ailleurs, il y avait le marquis Lauriston, ministre de la Maison du Roi, qui se réservait, lui, le droit de faire admettre quelques élèves étrangers doués. Mais la famille Liszt, elle ignorait cette décision que Cherubini leur a cachée soigneusement. Finalement, le 7 mars 1824, Franz Liszt donne au théâtre Louvois son premier concert public. La presse est unanime à constater ses qualités extraordinaires. Donc, le 7 mars 1824, à 13 ans, il donne au théâtre Louvois son premier concert public. Je vous ai dit que la presse est unanime à le louanger pour ses qualités extraordinaires. Dès au printemps 1824, la même année, toujours à 13 ans, là, il se rend à Londres. On l'appelle Master Liszt. C'est comme ça qu'on appelle les jeunes dans les milieux anglais. Non pas Mister, mais Master. Il joue à l'Argyle Room, au Drury Lane. Et des gens importants assistent à son concert, et George IV l'invite au château de Windsor. À l'automne, toujours, de cette année 1824, il rentre à Paris, puis il essaie de combler les lacunes des premières années manquées de son éducation générale. Car c'est un garçon sérieux. Et le petit Liszt, des favoris des salons ultra, là, joue souvent devant les enfants de la famille royale, les enfants de France, comme on dit. Il fait une grande tournée dans les villages de province, puis en Suisse. Il a un fort penchant religieux, hein? Et il a finalement une crise mystique. Mais son père est là, qui surveille. Et l'année suivante, le père et le fils se rendent en Angleterre pour une troisième tournée cette fois-ci. Ça fait... Il était déjà retourné avant. Et rentré en France, son père, Adam Liszt, meurt malheureusement à Boulogne-sur-Mer. Le 29 août 1827. Franz a 16 ans. Madame Liszt l'apprend alors qu'elle est en voyage. Elle apprend cette nouvelle épouvantable. Elle était chez sa sœur en Autriche. Elle accourt à Paris. Elle retrouve son fils adolescent 16 ans qui s'efforce de gagner sa vie en donnant des leçons. En donnant des leçons, il tombe amoureux de son élève Caroline de Saint-Cricq, fille du comte de Saint-Cricq, ministre du gouvernement. Le comte de Saint-Cricq met ce jeune pianiste à la porte, malgré les larmes de sa fille. Ils sont trop jeunes. Et là, bien, il a une nouvelle crise mystique qui résulte de ce malheur. Il veut devenir prêtre. Mais son confesseur à la paroisse Saint-Vincent de Paul à Paris, l'abbé Bardin, qui est un excellent musicien, l'en dissuade. Alors, il fréquente les milieux littéraires et artistiques. Francis fréquente même les Saint-Simoniens pour qui il joue. Et Lamennais, dont je vous ai déjà parlé, Félicité de Lamennais. Et il va rester un grand admirateur de Lamennais. Ça va l'inspirer, d'ailleurs. Au concert de Berlioz, il prête son concours à plusieurs reprises. Parmi tous les artistes français, c'est Berlioz qui exerce sur lui l'influence la plus profonde, la plus salutaire. Une grande amitié qui lie les deux musiciens, une amitié qui va durer jusqu'à la première exécution de la messe de Gran à... c'est une ville de Hongrie. À Paris, en 1866, la messe de Liszt. Berlioz n'approuvait plus l'évolution de son compagnon d'armes de jeunesse. Il n'était pas d'accord. Parce que, il faut dire qu'il faisait de la musique qu'on appellerait aujourd'hui de la musique moderne. Depuis plusieurs années, la comtesse d'Agoult, A-G-O-U-L-T, qui était née Marie de Flavigny, était d'origine franfortoise, de Francfort, par sa mère, était un peu allemande par sa mère. C'est sa maîtresse. Elle est devenue sa maîtresse. La comtesse abandonne donc son mari et sa fille pour rejoindre Liszt en Suisse, à Bâle. C'est rare que je vous parle de quelqu'un qui avait une maîtresse, mais vous allez voir, il va y avoir une évolution spirituelle chez cet homme qui a des élans mystiques et qui est un grand compositeur de musique religieuse. Alors, le 18 décembre 1835, la fille aînée de Liszt, Blandine, naît à Genève, près du lac de Côme. C'est alors que commencent les années de pèlerinage qui vont durer jusqu'à la fin 1839, au cours desquelles le couple parcourra la Suisse, puis une partie importante de l'Italie, peu importe, en tous les cas. Après un séjour de plusieurs mois, là, en mai-juillet 1837, au manoir de Georges Sand, qui était une femme, je vous le rappelle pour les jeunes qui ne sauraient pas, c'était un grand écrivain femme, Georges Sand, à Nohant, puis il y a eu la naissance de Cosima à Côme. Cosima qui va épouser Richard Wagner, qui va mourir seulement, si je me souviens bien, en 1961, je crois. 1931, c'est-à-dire. C'est tout de même étonnant, cette Cosima qui vit si âgée. C'est ça, elle est morte en 1931. Elle est née en 1837, elle a vécu presque 100 ans. En tout cas, le couple s'installe à Milan en 1838, puis à Venise, finalement. Et Marie Dagout, sous le nom de Liszt, elle prend ce nom, même si elle n'est pas mariée, elle publie les lettres d'un bachelier S-Musique et elle dénonce un certain talent littéraire. Elle dénonce toutes sortes de choses. Elle a un ton autoritaire. Et ses critiques musicales sont absurdes. Ça fait beaucoup de tort à Liszt, puisqu'elle porte le nom de Liszt en écrivant ces choses. Il est insulté, lui, dans la rue à Milan, à la suite de toutes sortes de stupidités qu'elle a lancées contre la Scala et l'art italien. Il faut pas toucher à ça chez les Italiens. Hein. Et c'est toujours Liszt qui doit subir les conséquences de la folie des grandeurs d'une maîtresse qui veut lui imposer ses incompétences musicales. Dans ses mémoires, elle éreinte les épousailles de la Vierge de Raphaël, au Brera. Elle dit la composition est monotone, la peinture sèche. Franz trouve ses visages communs et totalement dépourvus d'intelligence. Il n'y a pas un mot qui est vrai là-dedans, il n'a jamais dit ça. Alors, les tensions sont fortes entre sa maîtresse et lui, même s'ils ont eu 3 enfants. Daniel, qui va mourir, lui, à 20 ans. La petite Blandine, qui va mourir à 28 ans après s'être mariée. Et Cosima, qui va épouser, comme je vous ai dit, Wagner. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? Bien, la bonne société parisienne ne pardonne pas à Liszt cette union illégitime. Et après un court séjour à Genève, il entreprend une carrière itinérante de pianiste virtuose. De loin, le plus grand de son temps, et le plus grand pianiste de son temps. Ça va le mener dans toutes les capitales et dans toutes les grandes villes européennes, jusqu'au cœur de la Russie. Durant cette période, il compose, pour ses propres besoins, une grande partie des rhapsodies hongroises que vous connaissez, et des études d'après Paganini. Il est d'ailleurs curieux de constater que ses programmes de récital ne comprennent, en plus de ses œuvres et celles de Chopin, ainsi qu'une seule sonate de Scarlatti, mais ça ne comprend que des pages de musique allemande. C'est un peu curieux. En 1842, le grand-duc de Weimar le nomme Kapellmeister, ou directeur du chœur de la chapelle, la musique de la chapelle. Le nomme donc Kapellmeister. Meister, extraordinaire. Alors, ainsi débute une nouvelle période de sa vie et de sa production musicale, parce qu'après avoir failli devenir musicien français, il s'engage résolument là dans une espèce de rapprochement culturel de la France et de l'Allemagne. Ça devient très fréquent, sur le plan de la création. Et on peut dire qu'à partir de ce moment, il devient culturellement français, musicalement plutôt allemand, et pourrait-on ajouter sentimentalement plutôt hongrois, selon Serge Guth. Alors ces années voient naître le chef-d'œuvre qu'est la sonate en si mineur, le Faust symphonie, la Dante symphonie, la Messe de Grâne en 1855 et revue en 57-58. et bien d'autres grands ouvrages. Et ce début de germanisation, si on peut dire qu'il devient de plus en plus allemand, de Liszt, c'est essentiellement le fait de Marie Dagout, qui est allemande par sa mère, comme je vous ai dit, de Francfort, et élevée donc en partie à Francfort. Et Liszt finit par quitter la comtesse Dagout pour une princesse, la princesse de Saxe-Wittgenstein, rencontrée lors d'un concert à Kiev en 1847, et qui va devenir la grande égérie, si on peut dire, de la deuxième partie de sa vie, avant qu'il ne se décide à entrer en religion. Entrer en religion, c'est-à-dire devenir un clerc, tonsuré, qui a reçu les ordres mineurs et qui porte la soutane. C'est elle, cette princesse, qui va le persuader de renoncer à sa carrière de pianiste virtuose pour se consacrer uniquement à la composition puis à faire des œuvres religieuses. Et durant ces années à Weimar, Liszt non seulement écrit la majorité de ses œuvres les plus célèbres, mais il monte puis il dirige comme maître de chapelle d'innombrables ouvrages de ses contemporains. Il écrit notamment Lohengrin de Wagner, c'est lui en 1850. À la tête d'un orchestre, il peut écrire, réviser, expérimenter dans un domaine qu'auparavant il avait peu pratiqué. Et d'où notamment naissent la série de ses poèmes symphoniques. Et en outre, il attire autour de lui le grand nombre d'élèves, parmi lesquels Hans Bülow et Peter Cornelius. Et Weimar, donc, devient en quelque sorte le lieu de ralliement de l'avant-garde de l'époque. Et nous allons voir la suite, comment il va se convertir à fond et devenir un curieux personnage qui vaut la peine d'être connu. Donc, à la suite d'une cabale qui est menée contre Franz Liszt et qui se transforme en incident lors de la création du barbier de Bagdad de Peter Cornelius le 15 décembre 1858, Liszt démissionne de son poste à Weimar, puisé du lundi au vendredi à 10h le matin en direct et qui est rediffusé le soir à 10h encore pour évidemment ceux qui ne peuvent pas écouter le matin ou qui ont le goût de l'écouter deux fois, comme me le disent certaines personnes. Je suis toujours étonné de voir combien certaines vies de saints, certaines vies, certaines émissions spéciales les intéressent au point de les écouter deux fois. Je reste stupéfait. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'écrivent et qui me téléphonent pour m'encourager, pour m'aider, en particulier un prisonnier qui est condamné à 25 ans de prison et qui m'écoute tous les jours, qui m'a écrit une lettre qui m'a mis les larmes aux yeux. C'est très émouvant de penser que quelqu'un dans sa cellule m'écoute comme ça. C'est très, très émouvant. Donc, à la suite d'une cabale qui est menée contre Franz Liszt et qui se transforme en incident lors de la création du barbier de Bagdad de Peter Cornelius le 15 décembre 1858, Liszt démissionne de son poste à Weimar. Il ne quitte la ville que 3 ans plus tard, en 1861, et après un séjour à Paris, il arrive à Rome. Il arrive à Rome, en octobre 1861. Ses espoirs d'épouser la princesse de Saxe-Wittgenstein se sont évanouis car le pape a refusé de prononcer la reconnaissance de nullité. Qui est condamné à 25 ans de prison et qui m'écoute tous les jours, qui m'a écrit une lettre qui m'a mis les larmes aux yeux. C'est très émouvant de penser que quelqu'un dans sa cellule m'écoute comme ça. C'est très, très émouvant. Donc, à la suite d'une cabale qui est menée contre Franz Liszt et qui se transforme en incident lors de la création du barbier de Bagdad de Peter Cornelius le 15 décembre 1858, Liszt démissionne de son poste à Weimar. Il ne quitte la ville que 3 ans plus tard, en 1861, et après un séjour à Paris, il arrive à Rome. Il arrive à Rome, en octobre 1861. Ses espoirs d'épouser la princesse de Saxe-Wittgenstein se sont évanouis car le pape a refusé de prononcer la reconnaissance de nullité. Alors, je vous raconterai ça, il va recevoir les ordres mineurs en 1865. Mais les convictions religieuses de l'abbé Liszt ont souvent été un sujet de plaisanterie. Je crois que c'est une erreur. Parce que, quand on lit bien, on voit bien que ce compositeur, profondément croyant, à sa façon, est devenu un homme d'église après que cette vocation l'a eu accompagné toute sa vie, depuis son enfance, vous l'avez vu, hein? Et il demeure installé à Rome jusqu'en 1869. Et ce séjour marque dans son évolution un jalon important, celui de sa découverte du répertoire vocal de la Renaissance, la belle musique vocale de la Renaissance, musique religieuse, ce qui va lui donner le goût des grandes œuvres religieuses, justement. Et de ces années datent les splendides variations sur le thème de Bach, Weinen, Klagen, Sorgen et Zagen, en 1862, écrite sous le coup de la mort de sa fille Blandine à 28 ans. Il y a aussi Christus, qui date des années 60, son plus bel oratorio, dit-on, et la messe du couronnement de 1867. À partir de 69 et jusqu'à sa mort, ce grand voyageur reprend la route. Il partage son temps entre Rome, Weimar et Budapest, en Hongrie. Il parle de sa vie trifurquée. À chacun de ses pôles, Rome, Weimar et Budapest, correspond alors une partie de ses activités. À Weimar, il redevient compositeur et chef d'orchestre au service des autres. Il y fait créer en 1877 Samson et Dalila de Saint-Saëns. Comme vous voyez, c'était un musicien important. Rome est pour lui un lieu de réflexion et de méditation mystique. Il perd jamais le goût de la présence de Dieu. Et Budapest, la troisième ville, où il place de vains espoirs et où sombrent définitivement ses prétentions de compositeur nationaliste hongrois, c'est pour lui le lieu de l'ambiguïté, lui qui se définissait comme moitié franciscain, moitié tzigane, hongrois, et qui évoque cet étrange pays dont je me constitue le rhapsode, il a écrit beaucoup de rhapsodies, ne parle pas le magyar, on peut prononcer aussi madiar ou magyar, qui est la langue curieuse, exceptionnelle de la Hongrie. À sa mort, le président du conseil hongrois, d'ailleurs, devait même s'opposer au retour des cendres de ce grand compositeur hongrois, curieux. Et ses années, celles de sa vieillesse, Liszt a su les remplir de nouveaux chefs-d'œuvre, hein? Les très beaux Jeux d'eau à la Villa d'Este, 1877, que va entendre, interprété par le compositeur lui-même, à Rome, le jeune Claude Debussy, qui est médusé par cette musique. Il compose aussi l'année suivante, en 70-79, c'est-à-dire Via Crucis. C'est un chemin de croix. Puis la troisième année de pèlerinage. Puis les pièces prophétiques pour piano, que sont Gondole lugubre, Tsardas macabre ou Bagatelle sans tonalité. Ses œuvres de la fin de sa vie, sa rencontre pendant bien un siècle, on peut dire que de l'ironie, de l'incompréhension, mais aujourd'hui, on commence à les apprécier. Richard Wagner, qui était son gendre et son ami en même temps, riait de ça. Mais il mettait, lui, Wagner, le caractère visionnaire de ces œuvres-là sur le compte de la sénilité de son beau-père, Franz Liszt, et de l'abus d'alcool. Franz Liszt est mort de congestion pulmonaire dans les bras de sa fille Cosima, à Bayreuth même, oui, à Bayreuth. Le 31 juillet 1886, après avoir vu Parsifal le 23 juillet, et Tristan le 25, puis en laissant une œuvre prophétique. Il me semble dont le souffle est pas près de s'éteindre si on écoute bien Franz Liszt. Une fois mis à part les œuvres de première jeunesse influencées par Czerny, rien chez lui ne peut être comparé à la musique de son temps. C'est un original, un spécial, vraiment, qui a du caractère, hein, d'un homme, un compositeur spécial. Vers 1830, déjà, il est jeune. Il est à 19 ans à ce moment-là. Les premières mesures de malédiction témoignent d'une audace qu'il va conserver toute sa vie. Et de même, en 1834, il a écrit une des harmonies religieuses et poétiques sans indication de tonalité. Et avec des changements de mesure, ça, c'est de la musique très moderne, finalement. Et cette évolution va se poursuivre jusqu'aux dernières œuvres qui rejoignent, dit un spécialiste, Schoenberg ou Debussy. Liszt parcourt le 19e siècle, quoi, en ouvrant toutes grandes les portes au bouleversement du 20e siècle. Il se révèle de plus en plus comme s'il n'est pas... n'était pas uniquement le compositeur du rêve d'amour et de quelques rhapsodies hongroises plus ou moins galopantes et populaires. Des mille aspects de la légende de Franz Liszt, son amitié pour Richard Wagner est un épisode important. Hein. Mais pourtant, quelle différence de comportement en ces deux hommes. Hein? Puis d'ailleurs, entre leur musique aussi. Mais l'œuvre de Franz Liszt, qui sort aujourd'hui du purgatoire enfin... Il est amusant de découvrir que Richard Wagner, le révolutionnaire, n'était pas aussi audacieux qu'il se plaisait à le proclamer. C'est Liszt qui est l'original, le spécial. Liszt ouvrait la porte vraiment du 20e siècle à Weber, Schoenberg, Berg, etc. Alors que Wagner fermait celle du 19e siècle. L'affirmation Wagner continuateur de Liszt, qu'a dit un spécialiste, est une erreur fondamentale. C'est dû en partie à la négligence et à la méconnaissance de l'œuvre de Franz Liszt. Pendant une grande période de sa vie, Liszt souffre de n'être considéré que comme un virtuose au piano, égaré dans la composition. Puisqu'elle est la réflexion que ses œuvres inspirent dès qu'elles ont en elles quelque chose de bizarre ou de nouveau, c'est comme ça toujours que les gens jugent la musique dite contemporaine. Elle était contemporaine pour eux, et ils avaient de la misère avec elle. S'il a vécu très tôt le succès, il a vécu aussi de bonheur le malentendu qui l'accompagne. Parce que ce malentendu, c'est un mot qu'il emploie lui-même, n'a lieu que si il y a au moins apparence de succès, autrement il n'y a qu'ignorance ou mépris. Hein. Et Liszt est un progressiste déclaré aussi sur le plan même de la lecture. C'est une lecture passionnée de Lamennais, Hugo, Byron, il se nourrit autant de littérature que de musique. Il cherche un renouvellement de la musique par une alliance plus intime avec la poésie, dit-il, un développement plus libre et, pour ainsi dire, plus adéquat à l'esprit de ce temps. Quand il parle d'allier la musique avec la poésie, il a renoncé depuis longtemps à mettre un drame lyrique, voire des vers en musique, sauf dans le domaine religieux. Alors, il compose peu de lieder et... Dans le domaine religieux, il préfère à la voix soliste le chant collectif. Et c'est à la musique sans texte pour piano et orchestre que Liszt, ce lecteur passionné, demande de traduire la résonance en lui de ses lectures qui l'enivrent chez Hugo, Lamennais, Byron, etc. Son identité, il croit la trouver un instant dans ses racines hongroises, mais il s'y arrête pas. Et surtout dans le domaine de la musique religieuse, c'est là qu'il trouve son identité, où il se considère comme sans rival à son époque. Il y fait souvent, on pourrait dire, preuve de simplicité, d'archaïsme aussi, de rudesse anti-ornementale, en s'appuyant sur son étude de Palestrina, qu'il a beaucoup étudié, la musique de Lassus aussi. Il se penche beaucoup sur le grégorien, etc. Pourtant, chez Liszt, il y a toujours une inquiétude qui est perceptible. Même dans son Christus, car il a écrit un oratorio Christus. Finalement, cette énergie mystique, c'est d'abord sur l'estrade du virtuose adulé qu'il la dépense avec le plus de force de conviction et dans plusieurs pages des années de pèlerinage ou même dans telle étude transcendante ou telle page d'album, on trouve un mariage unique de sens religieux, puis de délire de virtuosité, comme si l'élan de la difficulté physique, pour l'interprétation, là, portait les mouvements de son âme. C'est à son piano qu'il se sait prophète idéal, hein, qu'il prêche le mieux peut-être, alors que c'est là qu'on le prend pour un pitre, pour un amuseur. Ces deux légendes de 1865 sont éloquentes puisque consacrées aux deux saints qui portent son prénom, Saint François d'Assise, en particulier, qui parle aux oiseaux. C'est Franz Liszt qui prêche lui-même aux oiseaux en, avec des notes perlées et qui y met dans la virtuosité tout son amour et son altruisme. C'est là qu'il cherche à traduire. Il y a sa légende aussi de Sainte-Élisabeth de Hongrie. Quand elle est achevée, Liszt pense à sa propre vie qui doit ressembler à celle de cette Élisabeth. Hongrois comme elle, il n'a vraiment aimé, dit-il, que le ciel et les climats de la sainteté. Et comme Sainte-Élisabeth de Hongrie, il a vécu en Thuringe, tout proche de cette Warburg qu'elle a illustrée de ses travaux puis de sa charité. Enfin, comme elle, il aspire à mourir en odeur de sainteté, oui. Il aspire à mourir en odeur de sainteté. En quelques images, il résume musicalement tout l'essentiel d'une vie dont l'amour a été, pour ainsi dire, la base, le rythme. Lorsqu'il a eu terminé sa légende de Sainte-Élisabeth de Hongrie, en toute simplicité d'âme, il a désiré se rapprocher davantage du cœur de l'Église. Depuis longtemps, il a songé à entrer dans les ordres mineurs, qui, sans le lier par des vœux, va lui conférer toutefois une espèce de reflet des dignités sacerdotales, et ça l'attire. Il s'en ouvre au cardinal de Hohenhall, qui est un prince aussi, et qui appuie fort le projet de Liszt, où sombre définitivement toute son idée du mariage avec la princesse Caroline dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est d'ailleurs la belle-mère du frère du cardinal Hohenhall. Alors, personne que Liszt ne se doute à quel point Caroline a renoncé, et dès lors, Franz se prépare avec l'ardeur d'un lévite à sa consécration qui est fixée au 25 avril 1865, et quelques jours auparavant, Liszt fait une retraite chez les lazaristes où, heure par heure, il rédige pour son ami, qui aurait pu marier, son bulletin d'âme qui nous explique ce qui va se passer pendant cette retraite et les sentiments spirituels qui vont l'habiter avant de recevoir la tonsure, les ordres mineurs et la soutane. Alors, Franz Liszt fait donc sa retraite préparatoire à son ordination aux ordres mineurs, c'est-à-dire les ordres préparatoires au sacerdoce. Il ne sera jamais prêtre, il ne sera jamais sous-diacre ou diacre. Le sous-diaconat a été supprimé, mais il reste le diaconat avant le sacerdoce. Il ne sera jamais comme ça. C'est les ordres mineurs qu'il reçoit. J'explique ça pour ceux qui ne connaissent pas ça. Alors, Franz Liszt recevra ses ordres mineurs le 25 avril 1865. Il fait une retraite chez les lazaristes, comme je vous ai dit. On lui impose aucune austérité, sauf quelques lectures spirituelles. Et c'était un peu la vie qu'il menait au Monte Mario, quand il vivait seul, là. Il se lève à 6h30, il médite. Chose étrange, on dit qu'on lui servait un café dans sa chambre, mais qu'est-ce qu'on faisait alors du jeûne eucharistique qui commençait à minuit? Puisqu'il allait à la messe à 8h30 le matin, communiait, j'imagine, ou peut-être qu'il ne communiait pas. Il faisait des lectures spirituelles, seul. Ensuite, une visite au Saint-Sacrement, dont il a été longuement question hier dans l'émission sur Saint-Pierre-Julien-Aymard. Dîner au réfectoire à midi, on le place à une table à part. D'ailleurs, personne ne part. Ça lui convient fort. Il comprend pas tellement bien la lecture que l'on fait. C'est un frère qui lit du haut d'une tribune, depuis le commencement jusqu'à la fin du repas, un peu comme chez les bénédictins. On fait la lecture à table. C'est le silence à Saint-Benoît-du-Lac. On lui sert encore du café dans sa chambre. C'est un procédé auquel il est sensible. C'est un peu particulier. Les lazaristes ne reçoivent pas de café dans leur chambre. Repos de 1 heure et demie, donc, puis vers 2 heures, à peu près, lecture spirituelle, visite au Saint-Sacrement encore, promenade dans le jardin jusqu'à 3 heures et demie, méditation seule, souper à 8 heures, silence et lecture, comme au dîner, puis... Le père supérieur, lui rend visite, et à 10 heures, toutes les lumières le soir sont éteintes. Alors, il écrit d'ailleurs, « Je désirerais que notre cher père Ferraris se trouve à la chapelle de Hohenlohe, mardi matin, du cardinal, pour me confesser avant la cérémonie. » Et il ajoute, c'est très beau, « Tout ce qui est né de Dieu vint le monde, remporte la victoire contre le monde. Tout ce qui est Dieu vint le monde, et la victoire qui vint le monde est notre foi. » Il ajoute épître d'aujourd'hui, dimanche de Quasimodo, Saint-Jean. Le 24, il écrit, « Je vous rends grâce de vos petits billets. Tous mes souvenirs de vous sont des actions de grâce. Quant à mes lettres, je serais bien aise que vous les gardiez. Tout ce que je sais dire de moi, je ne puis le dire qu'à vous. » On est toujours au mois d'avril, le 25, il est levé avant 6 heures. Il dit quelques prières, il entend la messe, il continue la lecture du traité des Saints Ordres par M. Jean-Jacques Ollier, curé et fondateur de Saint-Sulpice, dont il y a un beau buste dans l'entrée au grand séminaire dans l'escalier, à Montréal. Il se confesse et il reçoit la tonsure. Il écrit, « La tonsure doit être en forme de couronne, afin que sur la tête du clerc, et de tout le clergé soit imprimée l'image de la couronne d'épines de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle signifie aussi la dignité royale de celui qui est admis dans les rangs du clergé. » Évidemment, les paroles constitutives de la cérémonie sont tirées du psaume 15, liste les profères de cœur et de bouche, en même temps que l'évêque. Et pendant que l'évêque lui applique les signes de la tonsure, eh bien, on dit « Le Seigneur est la part de mon héritage et de mon calice. » Il y a quelques oraisons. Le psaume 83. « Que vos tabernacles sont aimables, Seigneur, Dieu des armées. » Et tout étant terminé, Franz Liszt a pris possession de ses nouveaux appartements qui sont contigus à ceux du cardinal Prince Hohenlohe, dans Grand Aumônier du Saint-Père, dans le Vatican même, et sa porte à Franz Liszt se trouve tout juste en face des loggias de Raphaël, à 2 pas de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Un peu avant l'Angélus, l'abbé Liszt est reçu en audience par le pape. Et Pie IX l'accueille avec grande douceur. Franz Liszt, l'abbé Liszt, lui dit, « L'évangile de ce jour nous apprend que la moisson est grande. Je ne suis hélas qu'un bien petit et bien faible ouvrier dans votre moisson. Mais je me sens heureux de vous appartenir à présent un peu plus encore, et je supplie votre sainteté d'ordonner de moi. » Enfin, il est prêt à suivre les ordres du pape. Et le pape lui dit, « Eh bien, vous aurez maintenant quelques études théologiques à faire. » Il lui demande de faire des études théologiques. Il dit, « Je n'y suis pas resté entièrement étranger, et je les reprendrai avec plus de zèle et de joie. » Sainteté. Alors, en apprenant la nouvelle, sa mère a pleuré. Et alors, il se remet quand même un peu à la musique, hein. Il n'en a pas fini. Et c'est à Beyrouth, finalement, que il va se loger avant de mourir. Et puis, il reçoit plusieurs élèves, il sort. Il se conduit curieusement. Le docteur lui fait une piqûre dans la région du cœur, finalement. Il remue un peu les lèvres au moment de sa mort. On se penche pour l'écouter. Il dit Tristan. Parce qu'il a vu Tristan quelques jours avant, à Beyrouth. On lui demande s'il souffre, et il répond, « Non, plus, plus. » C'est la dernière parole, comme c'était la dernière parole de Chopin, d'ailleurs. À minuit, il était mort. Mais cependant, Beyrouth est sous grand pavois, hein? Le prince impérial est arrivé, et précisément, on va donner au théâtre le drame Tristan. Rien ne doit être changé au programme des fêtes. Liszt, d'ailleurs, aurait pas toléré ça. Et la cérémonie des obsèques, elle est sans doute ce qu'elle devait être. Des discours, pas de musique. Le corps est enseveli dans le cimetière de Beyrouth, bien qu'il ait été réclamé par Weimar et par Budapest. Mais à Budapest, a été refusé, de toute façon. Je ne crois pas qu'il soit revêtu de l'habit de tertiaire, dit Guy de Pourtalès, comme Liszt l'avait désiré. Quelques 13 ans par hasard, il avait écrit aussi, si possible, qu'on me conduise le soir à ma dernière demeure. Deux ou trois hommes payés pour cela suffiront à me porter. Je ne voudrais pas déranger d'autres à me suivre au cimetière, où je ne puis plus les servir de rien.